Bruno Sainteau, vous réagissiez dans le journal de Sophie Delpont au nouveau scandale de pédophilie dans l'église catholique, cette fois en Pennsylvanie, où 300 prêtres sont accusés d'attouchements et de viols sur plus de 1000 mineurs. Vous avez parlé d'une honte profonde pour l'église et le clergé sur lesquels sont jetés le discrédit. Vous vous incluez donc dedans, puisque vous faites partie du clergé, vous êtes père jésuite. Pour autant, l'église catholique continue à se positionner et avoir de l'influence sur les questions de sexualité, de procréation de femmes, des questions qui concernent les femmes. Vous êtes vous-même responsable du département éthique biomédicale au Centre Sève. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Quelles sont vos missions au sein de ce département?
Alors ma mission, c'est de réfléchir notamment avec des soignants, médecins, infirmiers, infirmières, parfois aides-soignantes, psychologues, sur les usages des techniques biomédicales et sur ce qu'elles induisent dans la relation médicale, sur les choix difficiles auxquels sont confrontées les personnes, employer telle technique ou pas, et quels choix, donc quel choix éthique pour les personnes, et puis aussi un investissement dans le débat politique pour le vote sur les lois relatives à la bioéthique. Donc j'ai une activité de formation, de conseil, de réflexion avec d'autres, cours, conférences, réflexion en petits groupes.
J'imagine que vous lisez aussi énormément tout le corpus théologique qui concerne ces questions-là, les encyclines et autres doctrines papales. Vous avez lu attentivement la Bible, on l'imagine bien, et plutôt deux fois qu'une. Il me semble que l'Ancien Testament est plein de récits de mères porteuses.
Alors, ce n'est pas des mères porteuses au sens actuel, puisque les mères gardent leurs enfants. Donc c'est pas des mères porteuses au sens actuel. Il y a pas de contrat d'abandon.
Lesquelles par exemple de femmes, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben Agar regarde son enfant par exemple Ismaël.
Ismaël c'est le fils de Sarah et d'Abraham.
Mais
qui est porté par la femme esclave Agar.
Mais en tout cas on ne refuse pas à Agar d'avoir le titre de mère de cet enfant. Donc je pense que le terme même de mère porteuse ne correspond pas à la réalité biblique, si vous voulez. Hein, vous voyez, actuellement, mère porteuse, qu'est-ce que ça veut dire? On passe un contrat, qui est un contrat financier et un contrat d'abandon. La femme porte l'enfant, elle l'abandonne dès la naissance pour un autre. C'est pas du tout la réalité biblique. Donc le terme même ne convient pas, me semble-t-il.
En tout cas, la réalité biblique, c'est aussi de dire que la stérilité est une malédiction, une punition de Dieu. Est-ce que c'est pour des fautes qu'on a commises, qu'on sache lesquelles ou non?
Alors, la punition de Dieu, ça, c'est les hommes qui l'interprètent comme ça. Il est vrai que la réflexion sur la stérilité même, l'impossibilité d'avoir des enfants, traverse tout le corpus biblique. En fait, c'est plein de récits de femmes, enfin de couples même, qui veulent avoir des enfants, qui n'en ont pas. On peut s'interroger pourquoi finalement l'expérience de l'impossibilité d'avoir des enfants est si prégnante dans la Bible. Bah, on pourrait dire ça aussi sur le fait que l'enfant n'est pas une réalité, simplement produite, mais que l'enfant aussi, en tout cas tout être humain, vient d'ailleurs. Si vous voulez, la théologie anciennement disait que l'âme est donnée par Dieu. C'est pour dire qu'en fait, ce ne sont pas les humains qui produisent des humains. On pourrait dire ça en termes actuels. Autrement, si vous voulez, deux libertés s'associant, un homme, une femme, ne produisent pas une autre liberté. Ils l'accueillent. Si vous voulez, on pourrait dire que c'est le mystère du surgissement d'une liberté nouvelle à partir de la rencontre de libertés. Donc ça, c'est tout à fait une énigme. La Bible ne pose pas le sujet dans ces termes-là. Mais c'est pour dire que, en fait, le surgissement d'un nouvel être humain est une sorte d'énigme où Dieu a quelque chose à voir, si vous voulez. C'est ça. Et qu'il ne suffit pas de deux humains pour produire un humain. Maurice Godelier analyse ça très bien en faisant le tour de toutes les cultures qu'il a pu analyser. Il dit, il suffit jamais d'un homme et d'une femme pour faire un enfant. Dans beaucoup de cultures, il faut un autre élément, le soleil, les génies.
Et donc pour les catholiques, c'est Dieu.
Si vous voulez, une tierce personne. C'est-à-dire que on pourrait analyser ça en termes actuels en disant que, en tout cas c'est comme ça que je le formulerais, que le surgissement d'une nouvelle liberté est quelque chose de tout à fait énigmatique.
Voilà. Qu'est-ce que disent
et que l'enfant n'est pas produit, en quelque sorte.
Qu'est-ce que disent les textes plus récents de l'Église du XXe siècle, que ce soit, il y a un texte, je crois, de 1987, mais aussi, surtout, le texte qu'on évoquait tout à l'heure, celui de, c'était sous Benoît XVI, en 2008, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui aborde les questions de bioéthique.
Oui.
Les termes sont posés, en tout cas, conservation d'embryons, congélation d'ovocytes, fécondation in vitro.
Oui, l'Église est toujours intéressée, en fait, à ce mystère du surgissement d'un nouvel être humain, d'où vient son âme, qui c'est qu'il a, est-ce que ce sont les parents qui l'ont produite, est-ce que l'âme vient de Dieu. Autrement dit, est-ce que le principe fondamental de la subjectivité est dû à, est une sorte de création mystérieuse ou une production. Donc l'Église est toujours intéressée à ces sujets-là. C'est le revers de ce que nous disions tout à l'heure autour de la condamnation de la culture du déchet par le pape François. Le revers de la culture du déchet, c'est de mettre en valeur la dignité de tout être humain depuis sa conception.
La culture du déchet sont les mots employés par rapport à l'avortement, c'est-à-dire on se débarrasse de
mais
ce qu'on ne veut pas.
Mais pas uniquement l'avortement, si vous voulez, le fait de mettre des gens de côté, de mettre les pauvres de côté, les gens qui ont moins de capacité intellectuelle de côté. Il y a une manière de, chez le pape François, c'est un terme assez violent.
C'est pas la même chose que l'avortement en tout cas.
C'est pas la même chose, non. Mais vous voyez, il met tout ça dans la culture du déchet. C'est le revers, on pourrait dire la face négative de la valorisation de la dignité éminente de la personne. En termes bibliques, c'est la création de tout être humain à l'image de Dieu. C'est cet héritage-là. Alors, on pourrait dire ça en termes actuels, c'est la dignité inaliénable de chaque personne, sa valeur absolue, que chaque être humain est un incomparable, un être singulier, qui, du coup, ne peut pas être monnayé, exploité, valorisé, qui n'a pas de prix comme tel. Voilà.
Et depuis quand l'Église catholique se positionne sur les questions de bioéthique et de fécondation in vitro et autres?
Dès l'apparition des techniques biomédicales, de toutes les techniques biomédicales, alors, si on voulait donner un marqueur, on pourrait dire que c'est le pontificat du pape Pie XII, qui lui-même était confronté au sortir de la guerre à toutes les nouvelles techniques, prenons l'exemple du respirateur artificiel. On a un outil magnifique, le respirateur artificiel. Quand est-ce qu'on le met pour aider une personne à respirer, l'aider à vivre? Et quand on l'a mis, est-ce qu'on peut l'arrêter? Quand est-ce qu'on peut l'arrêter? Ce sont des questions nouvelles auxquelles l'Église, évidemment, n'avait jamais été confrontée. Pas plus que les techniques d'assistance médicale à la procréation, elle n'avait jamais été confrontée dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces techniques-là? Qu'est-ce qui va réguler l'usage de ces techniques? Quelles sont les grandes références morales, les grands principes éthiques qui vont réguler l'usage de ces techniques? C'est le pontificat, globalement, de Pie XII, qui met en place la plupart des grandes références que nous utilisons encore aujourd'hui, et vous l'avez souligné, qui ont été rappelées dans deux textes majeurs de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en 1987 et en 2008.
87, c'est l'instruction Donum Vitae aussi de Jean-Paul II qui refuse aux couples mariés le droit de recourir à une fécondation in vitro, même homologue, c'est-à-dire sans tiers d'honneur extérieur. Le titre du texte, c'est le don de la vie, ce qui est quand même très explicite. Ouais. Ce don serait le fruit d'une coopération de Dieu et de l'acte conjugal des époux. Et cette question, cet argument de nature, de la confusion entre nature et Dieu, on le retrouve pour la question de l'homosexualité dans l'Église. C'est toujours cette même position-là. L'Église n'a pas avancé du tout là-dessus.
Alors, on pourrait dire que l'Église a avancé sur sa compréhension de la sexualité, plus globalement, on pourrait dire ça.
Mais comme pour l'avortement, vous dites que c'est un accompagnement de ceux qui se découvrent ou qui prennent la décision d'eux, mais ce n'est pas une compréhension de l'affaire.
Si, parce que par exemple, la compréhension de la sexualité, entre la compréhension de la sexualité de Vatican II et celle des premiers pères de l'Église, il y a quand même une très grande différence.
C'est-à-dire?
À Vatican II, on pourrait dire que la sexualité est comprise d'un point de vue personnaliste, c'est-à-dire comme une dimension de la personne, quelque chose qui est attaché à la personne. Je ne sais pas si les gens ont lu Foucault, mais en tout cas, c'est présent dedans. Donc, une dimension attachée à la personne et comme une expression de la personne. Donc, la sexualité n'est pas seulement un acte, si vous voulez, ne sert pas non plus uniquement à la procréation. Il ne faut pas oublier aussi que dans l'histoire, tous les grands débats qui ont été traités par les pères de l'Église et par le magistère de l'Église pendant des siècles, quelle est la finalité de la sexualité? À quoi ça sert? C'est fait pour quoi? Alors, certains pères de l'Église ont répondu, Ben, la sexualité n'existe que parce qu'il y a la procréation. Et s'il n'y avait pas de procréation, la sexualité n'existerait pas. Bon. Certains pères de l'Église, très influencés d'ailleurs par les morales, notamment stoïciennes. Donc il faudrait replacer tout ça dans l'histoire. Alors, la compréhension a beaucoup changé, et je pense à partir, grosso modo, ça change à partir des années 30 dans l'Église, une réflexion personnaliste sur la sexualité, où la sexualité est une expression de la personne, et non pas seulement, ça ne sert pas uniquement à faire des enfants, c'est une expression de la personne, dont vous retrouverez les grands termes de donation, de communion des personnes, d'expression des personnes dans la sexualité.
Donc l'homosexualité aussi.
Alors, justement, la doctrine sur l'homosexualité n'a pas beaucoup changé, dernier texte, Persona Humana en 75, où elle est toujours comprise comme un acte gravement désordonné, si vous voulez.
Ce sont les mots, oui.
Voilà. Et accompagnée, évidemment.
Employée.
On accompagne les personnes, on ne les juge pas, et surtout, on n'exerce pas de violence. Il ne faut pas oublier la violence qui est exercée dans l'histoire par rapport aux personnes homosexuelles.
Le pape François, en 2013, il disait « Qui suis-je pour juger ?» Ça avait vraiment suscité des espoirs de reconnaissance et de plus grande tolérance de l'homosexualité, mais finalement, aujourd'hui, il a repris complètement la position traditionnelle des autorités catholiques.
Oui, enfin, il n'en parle pas beaucoup.
Il évite.
Oui, enfin, je ne sais pas s'il évite, lui seul peut le dire.
Non, mais encore une fois, c'est une histoire de conviction personnelle ou de politique au sein du Vatican, de diplomatie, il faut ménager les uns les autres.
Chez lui, on ne peut pas l'accuser d'être bassement politique en sens de faire des manœuvres. C'est un homme de conviction qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Je crois que fondamentalement, il est très attaché au non-jugement des personnes. Il a dit qu'il avait accompagné des tas de personnes, homosexuelles, transgenres, transsexuelles. Il y a un gros travail à faire encore au niveau théologique pour réfléchir sur l'homosexualité. Je trouve que... Alors, ça ne se sait pas, si vous voulez, sur la place publique, mais les théologiens continuent de réfléchir sur la place de l'homosexualité, notamment à partir de la compréhension personnaliste de Vatican II. Si la sexualité est une expression des personnes, elle n'est pas uniquement référée, si vous voulez, à la procréation, il y a manière aussi de comprendre l'homosexualité de manière différente, comme expression, comme expression de l'amour d'une personne, comme don d'une personne.
Ah oui, il se pose beaucoup de questions sur quelque chose d'assez simple, finalement.
Quelque chose d'assez simple. La sexualité n'est pas si simple que ça. Ça se saurait si c'était aussi simple que ça. Sinon, il n'y aurait pas besoin de psy, de tas d'émissions sur le sujet. La sexualité est quand même très compliquée du point de vue humain. C'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Voilà.
Les fidèles attendent beaucoup du pape sur ces questions.
Oui,
et
je
notamment...
pense que les fidèles attendent beaucoup. En même temps qu'il y a des crispations chez les fidèles. Oui, de la même manière qu'il y a des crispations autour du Manivité qui sont toujours présentes. Il y a des crispations aussi sur le thème de l'homosexualité. Je pense que la théologie de l'homosexualité devrait évoluer. Voilà. Il faut y aller prudemment, il faut réfléchir posément, il faut reprendre les textes de la Bible qui sont servis d'interprétation dans un autre contexte. On peut les interpréter autrement dans un autre contexte, de la même manière qu'on est très conscient aujourd'hui que ce qu'on appelle l'homosexualité dans le monde grec ne correspond absolument pas à l'homosexualité dans le monde actuel. Mais c'est un rapport de pouvoir, un rapport dominant-dominé, un rapport actif-passif, si vous voulez. Donc il faut avoir en conscience de toutes ces dimensions historiques qui permettent de réinterpréter les jugements très durs qui ont été formulés sur l'homosexualité.
Moi, je ne peux pas vous demander, Bruno Saintot, de remettre en question des siècles de position de l'Église catholique sur ces questions, évidemment, mais vous semblez quand même dire que vous souhaitez voir progresser le débat en la matière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité de débat au sein de l'Église qui a fait une large place pendant des siècles à la disputatione? Ça n'existe plus, ça, dans l'Église.
La disputatione existe encore entre les théologiens, peut-être de moins en moins d'ailleurs, je peux le regretter.
Mais disputatio... Ils sont tous d'accord?
Non, ils ne sont pas tous d'accord, mais quand ils ne sont pas d'accord, ils ne se rencontrent pas. C'est un peu le problème. Donc vous avez des petits groupes qui ont certaines opinions, mais ils ne se rencontrent pas. Et s'il y a des dissensus, s'ils sont portés sur la place publique, c'est pour faire scandale, c'est pour dire qu'un tel n'est pas d'accord avec la position officielle de l'Église. Alors je pense qu'il y a tout un travail de fond qui est en train de s'effectuer, mais qui ne paraît pas au grand jour pour traiter les questions de fond, mais de manière paisible. Voilà. Et non pas en jetant les anathèmes sur un tel ou un tel qui n'est pas conforme à la doctrine de l'Église, etc. Les théologiens ont toujours réfléchi sur des tas de questions. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est mis, si vous voulez, sur la place publique très tôt, et puis avec un système de condamnation qui ne favorise pas une réflexion apaisée. Alors je pense qu'il faut faire une réflexion théologique apaisée sur la question de l'homosexualité. Non seulement en raison des violences qui ont eu au cours dans l'histoire, mais en raison même de la manière dont nous pouvons évaluer, en tout cas apprécier, la sexualité humaine.
Merci Bruno Sainteau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes père jésuite, responsable du département éthique biomédicale au Centre Sèvres. Merci d'avoir été avec nous ce matin.